Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Politiquement Incorrect sur Radio Val de Reims. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission au cœur de l'actualité politique. Maxime Werner, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes chef d'entreprise, président de l'association Jeunes de France et premier candidat officiellement déclaré pour la présidentielle de 2017. Merci d'être avec nous. C'est déjà votre seconde candidature à la présidence de la République. En 2012, à 22 ans, vous aviez déjà été candidat. Vous êtes à l'initiative de l'abaissement de l'éligibilité à 18 ans pour l'ensemble des scrutins électoraux et de la réforme du permis de conduire. Faites-vous partie de ces responsables politiques ayant très tôt rêvé d'être président de la République ?
Non, sinon, vous savez, le parcours, la voie entre guillemets royale, c'est celle des partis politiques, de la formation, de l'attaché parlementaire, etc., qui est une voie que j'ai pas du tout choisie depuis mon plus jeune âge, justement. J'ai fait le pari inverse, c'est-à-dire d'être un acteur associatif, avec pas d'ambition strictement personnelle, mais plutôt l'ambition de réussir quelque chose de collectif et de pouvoir influencer dans un premier temps, les premières années, entre guillemets, de cet engagement, les acteurs politiques, et puis dès maintenant, les citoyens, de manière extrêmement directe.
Vous avez déclaré dans une émission diffusée sur Canal+ que vous n'aviez pas envie d'être élu président de la République. Je pense que vous êtes le seul candidat à ne pas avoir envie d'être élu.
Le seul, je ne sais pas. Mais en tout cas, ma vocation, ce n'est pas techniquement de poursuivre un combat de pouvoir personnel. Mon ambition, c'est que celles et ceux qui émergent, celles et ceux qui participent à la création d'un nouveau commun, celles et ceux qui essayent de réfléchir à ce que doit être une République effective, puissent en effet être et philosophiquement au pouvoir.
Vous vous définissez comme le candidat de la jeunesse rassemblée. Vous grandissez dans un village avant d'habiter la banlieue lyonnaise, plus précisément Bron, et de terminer vos études à Neuilly-sur-Seine. Ce sont des villes, des quartiers et des régions bien différentes. Quels sont les points communs entre un jeune de banlieue et un jeune de Neuilly-sur-Seine ?
Déjà, il y a un point commun extrêmement important qu'on oublie trop souvent qui s'appelle la République. C'est-à-dire que le jeune qui grandit à Bron et le jeune qui grandit à Neuilly-sur-Seine, ils vont partager, du fait de la redistribution, du fait de la sécurité sociale, du fait du système français qu'on veut préserver et qu'on se bat tous les jours pour préserver, ils vont partager l'école républicaine, leurs enfants iront dans les mêmes, entre guillemets, écoles. Ils vont partager un pays où aujourd'hui l'économie est chancelante, où il y a 5 ou 6 millions de chômeurs, donc de gens qui ne travaillent pas à leur guise. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont partager. Et surtout, ils vont partager un héritage commun, un héritage de savoir-être, de savoir-faire, un héritage culturel même, d'une certaine manière. Et la vraie question, au final, alors que d'habitude, c'est plutôt l'autre question que vous posez, c'est qu'est-ce qu'ils ont de différent ? Qu'est-ce qu'ils ont de différent ? C'est qu'ils ont un rapport à la vie, au monde, à la société, à leur pays, parfois, à eux-mêmes surtout, qui est complètement différent. Parce que d'un côté, on vous apprend la réussite, de l'autre côté, on vous apprend que vous êtes dans l'échec. Ce qu'il faut, c'est essayer de rapprocher, de définir et de sortir des sentiers battus pour trouver ce qu'il y a de commun, ce qu'il y a d'essentiel, et surtout de créer un double mouvement, plus seulement quelqu'un qui a le sentiment qu'il aide l'autre par la redistribution, et de l'autre côté, quelqu'un qui a le sentiment qu'il est dirigé, entre guillemets, par l'autre, par les statuts sociaux. Donc si vous voulez, toute ma problématique, c'est ça. C'est pas d'essayer d'expliquer ce qu'ont de commun les jeunes qui sont nés à Neuilly ou qui sont nés à Vau-en-Velin, c'est de dire aux jeunes qui sont nés à Vau-en-Velin, aux jeunes qui sont nés à Neuilly, vous avez ça en commun, on a ça de différent, qu'est-ce qu'on fait ensemble ?
Vous parlez de la République, la République et de l'école. Aujourd'hui, elle est dans la tourmente, réforme controversée, accusation d'inefficacité, baisse du niveau scolaire. Et la sélection se fait aussi bien sur le niveau scolaire, mais également les financières. Selon vous, comment remettre la méritocratie au cœur du système éducatif ?
Il y a deux problématiques. La première, la méritocratie telle qu'on l'a entendue dans les années 70 n'existera plus jamais en France. Pourquoi ? Parce que ça sous-entend qu'il y ait une croissance soutenue, ça sous-entend qu'il y ait une planification économique, ça sous-entend une position qui puisse être, entre guillemets, délivrée, en tout cas proposée, à des gens qui sortent d'un système scolaire organisé pour cela. Aujourd'hui, vous pouvez sortir d'un bac plus 5 et galérer pendant des mois et des années pour trouver un boulot. Ce n'est pas le marché de l'emploi qui s'adapte aux formations, c'est aux formations de s'adapter au marché de l'emploi. Cela étant, puisque on n'a aucune visibilité sur le marché de l'emploi et que la formation a un mal à se réformer extraordinaire, notamment l'école de la République, c'est-à-dire la primaire et le collège, ça pose, alors l'enseignement obligatoire, ça pose de très grandes problématiques à nos jeunes, par exemple pour s'intégrer dans la vie.
Que pensez-vous justement de la réforme du collège qui est menée par Mme Vallaud-Belkacem ? Il y a eu de très nombreuses oppositions.
Il y a des oppositions, mais elle a 5 réformes d'en part, Mme Vallaud-Belkacem. Et la grande problématique qui nous concerne, concernant l'école, elle est beaucoup plus large, parce que l'école, c'est notamment d'ailleurs dans les quartiers populaires, l'endroit précis de la République, là où les parents échangent avec les professeurs, avec les éducateurs, avec la collectivité, etc. Et ça pose un autre problème, c'est que l'école n'est plus du tout sacralisée aujourd'hui. Donc je pense que le premier plan que devrait porter la ministre de l'Éducation nationale, c'est à la fois un extraordinaire investissement humain, notamment sur les écoles où il y a le plus de difficultés.
De nombreux postes ont été créés.
De nombreux postes ont été créés, mais la problématique, vous savez, c'est pas la problématique du chiffre, c'est la problématique de l'adéquation entre des professeurs exigeants, qui ont la vocation, et des lieux où l'éducation est beaucoup plus compliquée parce que les phénomènes sociaux et la demande sociale est plus forte. Aujourd'hui, vous savez, un élève qui est en classe préparatoire vaut deux fois plus cher à l'État qu'un élève qui est dans un lycée traditionnel. C'est absolument injuste.
Maxime Werner, en 2012, vous avez publié un livre intitulé « Jeunes de tous les âges, unissons-nous, 89 propositions pour 2012 ». Dans cet ouvrage, vous écrivez, je cite, « Je n'ai jamais vu aussi réactionnaire que certains jeunes ». Pouvez-vous nous expliquer cette phrase ?
Ah, bien sûr, bien sûr. Vous savez, il suffit de regarder les scrutins électoraux. Aujourd'hui, une grande partie des jeunes, c'est-à-dire 30% de ceux qui votent, c'est-à-dire environ 15 à 20% des jeunes de notre pays, votent pour Marine Le Pen. Alors vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez me dire que c'est un vote...
Est-ce que le vote Front National est réactionnaire ?
Attendez, vous pouvez me dire que c'est un vote de contestation, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais la réalité, en effet, c'est que le Front National est un parti qui est réactionnaire, et c'est un vote qui, d'une certaine manière, participe de la réaction. Parce que, par exemple, les initiatives comme les miennes, je ne suis pas le seul, attention, hein, il y a plein d'initiatives dans le monde associatif, par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, dans la vie politique, pas assez souvent, mais parfois. Mais vous savez à quoi on est confronté ? À un nombre de jeunes extrêmement important qui vous disent « c'est foutu, on n'y arrivera pas ». Alors ils vont voter Le Pen par réaction, un petit peu par ressentiment parfois, et puis à côté de ça, ils continuent à s'installer dans une galère qui malheureusement va durer le temps que durera leur torpeur. Donc nous, on a cette problématique-là. En même temps, il y a un phénomène, on l'a dit tout à l'heure, générationnel, qui fait qu'on ne va pas pouvoir tirer l'intégralité de ces 20% de notre génération qui est réactionnaire. Il va bien falloir les convertir à un moment donné. Les convertir à autre chose que la réaction, c'est-à-dire à la construction d'une société nouvelle, d'une société plus juste, d'une société qui va les rendre plus accomplis et surtout qui va leur donner davantage de pouvoir sur leur vie.
Est-ce que le vote Front National, c'est pas un peu aussi de la faute de la classe politique qui durant 30 ans...
C'est la faute de la classe politique, mais enfin, vous savez, je vous le dis en toute franchise, si toute notre vie, on la passe à mettre la faute sur la classe politique, et on aura exactement ce qu'on a, c'est-à-dire une démocratie inutile. Aujourd'hui, les politiques n'arrivent plus à réformer ce pays. Ça fait 30 ans. Ça nous met dans une situation dramatique. Soit nous, on prend les choses en main sans ressentiment, sans capacité réactionnaire. Et on se dit, voilà, on vise le progrès, c'est difficile. Le progrès, ça ne s'arrête jamais, hein, par définition. C'est une visée extrêmement difficile et très philosophique. Mais on le vise, on se réunit. C'est un peu comme le serment du jeu de paume pendant la Révolution. Il ne faut pas se séparer tant qu'on n'a pas réussi à changer la société. Ça peut mettre 30 ans, hein. Moi, ça tombe bien, je suis assez jeune, je crois être en assez bonne santé.
Vous avez 25 ans.
Dans 30 ans. Ouais, 25 ans, c'est ça. Donc, si vous voulez, ça, c'est ma grande problématique. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que nos premiers ennemis, c'est pas le terme, mais les premiers qu'on doit convaincre et qui vont faire la différence dans les urnes et dans la vie, ce sont ceux qui, aujourd'hui, à la fois sont jeunes en termes de génération, mais dans leur tête, sont complètement réactionnaires, sont complètement défaitistes. Et il y en a autant dans les banlieues qu'à Neuilly-sur-Seine. Et c'est eux aussi que j'ai envie d'aller chercher. Il faut qu'on crée des transfuges. Il faut qu'on arrive à créer des situations où, justement, on ne sait plus où est le curseur social. C'est avant tout le curseur politique qui prend. Et qui dit politique, dit l'intérêt commun, dit la chose publique. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Il y a plein de jeunes qui l'ont, ce sentiment-là. On essaye de participer avec eux à cette aventure qu'est la présidentielle. Mais c'est un vrai sujet, hein. La réaction chez les jeunes.
Maxime Werner, vous souhaitez faire une campagne participative et transparente, c'est ce que j'ai lu dans votre projet, où les citoyens pourront faire des propositions et débattre. Cela passera également sûrement par les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous expliquer concrètement comment les citoyens vont pouvoir faire des propositions, débattre sur votre programme ? Est-ce qu'il y aura des applications, etc. ?
Exactement. Concrètement, dans un premier temps, jusqu'à la fin de cet été, nous participons avec des outils existants, hein, à une grande consultation nationale, même internationale pour tout vous dire. On va aller chercher des innovateurs, des activistes, des gens qui ont des solutions, qui ont des idées, des gens aussi qui ont des problèmes à la fois dans leur vie professionnelle, personnelle, philosophique, qui se posent des questions par rapport à notre pays. Et on va essayer de définir, un peu comme des sociologues de la politique, les grandes problématiques qui traversent ce pays, quels que soient les systèmes sociaux, quels que soient les lieux d'habitation, quelles que soient les générations. À partir de là, on va proposer en septembre, en effet, une application, et puis accessible aussi en format web, pour que chacun, où qu'il soit, puisse proposer ses solutions, voter pour les solutions proposées, les améliorer le cas échéant, et aussi nous aider sur la collecte de parrainage, puisque vous l'avez dit, en 2012, je n'ai pu en recueillir que 358. Là, il en faut 500, toujours. On a très bon espoir de les avoir, mais pour cela, il va falloir que les citoyens participent, aillent voir leurs élus, aillent secouer le cocotier dans leur département, dans leur région, dans leur territoire. Concrètement, en effet, ça va se matérialiser par une application en septembre, et on n'oublie pas le offline, comme on dit, et ça va se matérialiser par des déplacements dans ces fameux tiers-lieux dès le mois de septembre pour présenter justement ces grandes initiatives-là et démontrer qu'elles marchent concrètement au quotidien.
Est-ce que vous pensez que faire une campagne nouvelle par Internet, par les réseaux sociaux va avoir comme conséquence que les Français et les jeunes vont plus s'intéresser à la politique ?
En tout cas, la différence entre, pas vous et moi, mais en tout cas entre ceux qui me posent cette question et moi, c'est qu'ils partent du principe que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique et qu'il faudrait les intéresser. Moi, je crois l'inverse. Je crois que les jeunes s'intéressent à la politique, mais ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés que la seule émission politique qu'on puisse encore regarder, c'est le Petit Journal. Ils sont dégoûtés de considérer que dans tous les hommes politiques qu'on a, il y en a qui ont été condamnés, il y en a qui ont tapé dans la caisse et qui sont encore là. Ils sont dégoûtés de voir qu'on est en train de nous vendre une élection toute faite où l'homme politique qui serait élu, il a 70 ans. Il est là depuis 45 ans. Il n'a pas changé la France. Et en 95, il a reculé. Donc, évidemment qu'ils s'y intéressent.
Vous faites référence à Alain Juppé ?
Par exemple, mais la politique telle qu'on la voit, elle est pas intéressante. Elle est même, pour tout vous dire, parfois on a l'impression d'être des extraterrestres. Même moi qui suis un fasciné de politique, un passionné, quand j'étais gamin, je me rappelle, je regardais tout, je regardais la télé Georges Marchais et Chirac, Mitterrand, tout ça. Je ne regarde même plus, je ne lis quasiment plus le journal. Je m'intéresse davantage au territoire qu'il y a dans mon pays, à aller voir ce qui s'y passe, qu'à lire le journal, quoi. Je ne supporte plus la vie politique française telle qu'elle est. C'est pour ça aussi que je me présente. Et que je crée un mouvement qui est à la fois ouvert et participatif, mais surtout qui est co-construit avec les gens.
Vous souhaitez modifier en profondeur et durablement le système politique, je vous cite là. Aujourd'hui, bon, vous l'avez rappelé, il y a les affaires, il y a les financements occultes, il y a les magouilles, les prises illégales d'intérêts, etc. Mais concrètement, si jamais vous êtes élu député ou sénateur ou vous êtes ministre, ça va être également difficile pour vous de résister aux arrangements.
Voilà, de vous à moi, vous aurez peut-être remarqué que je ne me présente ni au législatif ni au sénatorial, je me présente au présidentiel. Pour moi, la fonction de président de la République, elle doit profondément changer. La cinquième, c'est foutu. Ça a été calqué sur un homme qui s'appelle le général de Gaulle, qui, dans une...
Elle a quand même montré une qualité, la stabilité. Oui, quand on se souvient de la 4ème République et des changements de gouvernement incessants.
La stabilité à quoi ? La stabilité à avoir un pays où, dans la moitié des élections, il y a un tiers des gens qui ne votent pas ? La stabilité d'un pays qui est incapable de résorber la dette publique ? La stabilité d'un pays qui est incapable de trouver du boulot à des jeunes qui ont envie ? La stabilité d'un pays qui est incapable de donner de quoi vivre à des gens qui créent toute la journée du commun et du savoir. C'est ça la stabilité de la Ve République ? Non, au bout d'un moment, il faut être sérieux. Aujourd'hui, le système politique ne sert plus à ceux qui émergent, à ceux qui ont envie de changer cette société. Il ne sert qu'à ceux qui veulent conserver des positions. Regardez les partis politiques. Vous avez vu la sociologie des partis politiques ? Il y a 0,5% des Français qui sont dans un parti politique. Ils n'ont plus un adhérent, les mecs. Ils ne savent plus former un type, a fortiori un gars d'en bas. C'est pas croyable quand même. Donc la stabilité de la Ve République, vous savez où je me la mets. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut changer ce système avec les gens qui, de eux-mêmes, participent à la transformation des énergies de cette société. Ils le font quoi qu'il arrive et quoi qu'il adviendra. Qu'ils le fassent aussi dans la vie politique. Moi, je fais partie de ce mouvement-là.
Le 6 mai dernier, il y a eu 3 ans que François Hollande était élu président de la République. Cette élection avait suscité un véritable espoir chez de nombreux Français. En tant que candidat à la présidentielle, mais aussi comme citoyen, quel bilan tirez-vous de sa présidence ?
Aujourd'hui, c'est difficile de tirer un bilan de la présidence.
Un premier bilan de la présidence.
Notamment sur les questions qui me fascinent, qui sont les questions de transmission entre les générations, d'intégration de la jeunesse dans le tissu économique et social, de vie culturelle. Je dis très franchement, quelle déception. Alors moi, j'y croyais pas trop de départ, mais quelle déception. Il avait dit, François Hollande, en 2012, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, vous me jugerez à la situation des jeunes dans ce pays. Est-ce que vous pensez qu'elle est meilleure qu'en 2012 ?
Moi, je n'ai même pas d'avis sur cette question-là. C'est à nos auditeurs de se faire leur avis en fonction des actions menées par le président de la République.
Cela étant, pour être clair avec vous, je ne juge pas plus mal le président actuel de la République que les anciens et peut-être même que les futurs. Ce que je vous dis, c'est que c'est le système politique dans son intégralité, parce que ce n'est pas les humains qui le font, qui est remis en cause. C'est le système démocratique dans le sens du processus qu'il engendre. Vous allez voter une fois tous les 5 ans et le type a tous les pouvoirs pendant 5 ans, mais donc en réalité, il n'en a aucun. Et parce que d'ailleurs, c'est des techniciens qui lui imposent certains choix. Moi, je vous le dis plus de go. Je crois profondément en la démocratie et je crois qu'il n'y a pas assez de démocratie en France. Voilà, voilà ce que je dis. Tout le monde ne dit pas ça, hein. C'est pas ce que dit Le Pen, c'est pas ce que dit Sarkozy, hein. Moi, je vous le dis, ça manque de démocratie dans ce pays, avec mes petits moyens d'en apporter un petit peu.
Maxime Werner, autre sujet, le chômage a encore augmenté et touche plus de 3,5 millions de personnes en France. Les jeunes et les seniors sont les premiers touchés par ce fléau. L'inversion tant attendue de la courbe du chômage n'arrive pas. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour combattre le chômage, qui est la priorité numéro une des Français?
Je crois que d'abord, il y a une grande priorité qui va permettre de recréer de l'investissement, de recréer une dynamique économique, de finalement recréer de la croissance. C'est que nous sommes un pays où 17% du PIB est concentré dans l'épargne et le même montant, à peu près 15%, dans l'immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne croit pas du tout en notre futur, qu'on ne croit pas du tout en nos jeunes, puisqu'ils sont incapables de devenir propriétaires. De fait, on stocke la propriété. Et de l'autre côté, ça veut dire qu'ils sont d'une certaine manière bloqués par cet argent qui ne circule pas. L'argent, c'est le sang de la société. Le stocker sur un compte en banque pour être rémunéré à 1%, c'est de la bêtise humaine. Sauf quand ça finance le logement social. Donc pour moi, la première solution pour recréer de l'emploi, créer de l'économie, au-delà de la question de l'éducation et de l'innovation, de la créativité, du soutien à des nouvelles industries, des nouveaux secteurs, des nouveaux rapports à un marché, elle est très simple. Il est qu'il faut qu'on remette en circulation dans l'économie réelle une grande partie des économies qu'il y a de ce pays. Et de l'autre côté, il est pour nécessairement modifier structurellement le marché de l'immobilier, qui aujourd'hui pousse plein de jeunes qui ont plein d'idées et qui ont envie de faire plein de choses à rentrer dans une logique de salariat pour pouvoir devenir propriétaire. Ça leur met une corde au cou pendant 30 berges et au final, ça ne sert à rien puisqu'ils ont acheté 10 fois ou 15 fois le prix, leur appartement, le prix que l'ont acheté leurs parents.
Donc, si je comprends bien, pour relancer l'économie pour vous, il faut relancer le marché de l'immobilier.
Il faut à la fois relancer le marché de l'immobilier, il faut changer complètement la manière dont on a de former nos jeunes, arrêter de les considérer comme des échecs scolaires dès qu'ils sont un peu différents, et essayer de structurer des réussites collectives, finalement de la recherche. En fait, il faut que tout le monde soit dans une dynamique de chercheur. Aujourd'hui, on le voit avec l'emploi, hein, d'ailleurs. Allez dans un pôle emploi, hein, je vous conseille l'expérience. Ah, c'est pire que le musée, hein. C'est impossible de trouver un taf. J'ai dû avoir 3 amis sur la multitude de copains que j'ai qui sont en situation de précarité, voire de chômage. Je dois avoir 3 copains qui ont trouvé un boulot au Pôle emploi. C'est surréaliste. Et c'est pas la faute des conseillers spécifiquement du Pôle emploi. C'est qu'aucune entreprise ne cherche quelqu'un par le Pôle emploi. C'est qu'ils ont 200 chômeurs à s'occuper, etc. C'est absolument inconcevable, leur système. Et les gens attendent après une croissance européenne pour que la courbe du chômage s'inverse. Mais c'est des conneries. Donc la grande problématique, encore une fois, c'est de remettre l'argent, puisqu'il existe, en circulation dans la vie économique. Et pas seulement par une logique keynésienne qui est un peu dépassée de, entre guillemets, la consommation, mais dans une logique beaucoup plus saine, qui est une logique de l'investissement. On faut investir sur les générations futures. Il faut arrêter de les considérer comme des vaches à lait qui vont pouvoir payer les couches dans les maisons de retraite. Il faut les considérer comme des gens et des citoyens à part entière, dont la voix compte autant que les autres, parce qu'aujourd'hui, on est quand même extrêmement minoritaire dans ce pays, les moins de 40 ans, dirons-nous. Et à côté de ça, il faut considérer qu'on n'est pas seulement des animaux de bétail qui se battent pour devenir propriétaires d'appartements. Peut-être qu'on va changer la société, d'ailleurs, sur ce sujet-là. Peut-être qu'au final, on va renier la propriété et qu'on va partager les choses. C'est pas le cas aujourd'hui, hein. Mais peut-être. Ça pose une tonne de questions sur l'emploi. L'emploi, je ne suis pas en train de vous dire que le temps de travail doit être partagé. Je suis en train de vous dire qu'il y a tellement d'énergie dans ce pays qu'il faut libérer et que c'est ça la libéralisation. C'est pas de faire des lignes de bus entre les villes de propre. Macron se fout de notre gueule. La libéralisation, c'est la libération des énergies. Ça veut dire qu'il faut changer l'école et le rapport psychologique qu'ils donnent aux gens, à leur vie, à leur travail, à leur rôle dans la société. Ça veut dire qu'il faut changer la structure économique qui ne valorise aujourd'hui quasiment que le salariat, parce que c'est ça qui finance la société. Et ça veut dire qu'il faut changer le rapport qu'on a à la propriété et l'épargne. C'est inconcevable quand même d'avoir encore dans une société où il y a 6 millions de chômeurs la volonté de placer de l'argent sur un livret. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est aux politiques. C'est la responsabilité des politiques aussi de proposer cette société-là. S'ils ne le font pas, vous avez des gamins comme moi qui arrivent et qui le font avec vigueur. Et ça suffira peut-être pas. On essaye.
Le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi de François Rebsamen est loin des ambitions initiales du gouvernement. On ne parle pas des 35 heures, ni de l'allègement du code du travail ou de l'influence plus importante des comités d'entreprise dans les instances directionnelles. Je pense que vous êtes déçu du recul du gouvernement.
Ah ben, si c'était le premier recul du gouvernement, j'en ferais pas montre. Mais enfin là, je crois que c'est un peu une habitude qu'ils ont, hein, et à force de reculer, vous savez ce qui va leur arriver. Moi, ce que je pense, profondément, hein, c'est que le système politique, finalement, est en train de trouver son intérêt à cette situation de précarité. Vous imaginez que la dette publique française, c'est l'équivalent de l'épargne française. C'est-à-dire qu'en réalité, tout le monde continuera à nous prêter. On a l'argent. Enfin, pas l'État, mais les citoyens l'ont. Donc ça pose une autre question. C'est qu'ils sont en train de faire le pari qu'une génération va accepter, va se plier, se mettre à genoux pour préserver le système. Et moi, je suis en train de leur dire, attention les amis, on veut bien se mettre à genoux, mais à une condition, c'est de ramper pour notre système à nous. On veut bien se sacrifier, mais alors qu'on nous donne le pouvoir politique, qu'on nous donne le droit de décider pourquoi on se sacrifie, pour quel monde, pour quelle société. C'est mon rôle, c'est de poser ces questions-là aux politiques, et de poser ces questions-là aux gens. On est que le miroir de notre génération. Nous. On essaye en tout cas.
Actuellement, l'Europe est critiquée en Grande-Bretagne. David Cameron a promis avant 2017 un référendum sur le maintien des Anglais dans l'Union européenne. Pour une majorité de Français, l'Europe est responsable en grande partie des difficultés économiques et sociales que nous connaissons. Maxime Werner, selon vous, l'avenir de la France est au sein de l'Union européenne ou en dehors des 28 ?
Bien sûr que l'avenir de la France il est au sein de l'Union européenne. Il suffit de regarder nos jeunes générations. Vous pensez qu'elles ne voient pas l'Europe ? Vous pensez qu'elles sont cloisonnées dans leur petit village, dans leur petite banlieue, dans leur grande ville ? Évidemment que non. Évidemment qu'il faut regarder l'Europe. Pourquoi ? Parce que l'Europe, c'est une culture, des cultures, en tout cas une civilisation, c'est plus de 300 millions d'habitants. Est-ce que vous imaginez la France, dans son petit marché, son petit nombril de 65 millions d'habitants, au milieu de cet océan d'opportunités, de possibilités, de menaces et de contraintes aussi, évidemment. C'est pas possible. Et je vais plus loin que ça. Est-ce que vous voyez l'Europe sans la France, vous ? Est-ce que vous imaginez ce que ce serait l'Europe sans son cofondateur historique, la France, sans le berceau de la civilisation européenne, ce serait rien. Donc évidemment que la France doit grandir et doit s'épanouir au sein de l'Europe. La Grande-Bretagne, c'est autre chose. La Grande-Bretagne est partagée entre deux influences majeures, anglo-saxonne et américaine, d'une part, européenne et historique, et puis économique, d'autre part. Ça pose une vraie question. Et je crois que Cameron est en train de la poser. Si jamais les Britanniques veulent sortir de l'Union européenne, c'est leur choix. Ils sont souverains. N'oubliez pas que la Grande-Bretagne a choisi de ne pas faire partie de l'espace économique européen dans le sens de la zone euro, quoi, de la zone monétaire euro. Ça pose déjà une question centrale. Soit on joue le jeu de l'Union européenne, y compris monétaire, soit on veut conserver d'une certaine manière une forme de souveraineté. Ils la conservent, et bien écoutez, ils la récupéreront peut-être totalement. Et de vous à moi, ça ne doit pas perturber le jeu économique et politique de l'Europe, et encore moins de la France. La France a un sillon à tracer. La France a une voie ouverte, pleine d'opportunités à nous de pousser.
Enfin, et pour conclure, Maxime Werner, si vous deviez résumer pour nos auditeurs votre programme en quelques mots, lesquels seraient-ils ?
Plus de pouvoir aux citoyens, plus de décentralisation, un changement profond sur ce qu'est la fonction publique avec tous ceux qui créent du commun et qui galèrent et qui pourraient y apporter leur contribution en contrepartie de formes de rémunération. Et puis, d'une certaine manière, arrêter de considérer la société comme une pyramide sociale, d'aller chercher comme des alpinistes là les positions et les appartements et quoi que ce soit, et considérer que liberté, égalité, fraternité, c'est de vivre sur le frontispice des mairies, c'est au contraire la seule manière de vivre heureux ensemble et qu'il va bien falloir y redonner du sens et que c'est à nous de le faire. Il faut arrêter d'attendre de nos responsables politiques. Il faut leur donner un mandat, les mettre à l'amende s'ils ne tiennent pas leurs engagements, s'engager, parfois même se présenter, et je le fais à ma manière, quand on a la capacité, la volonté, les idées, l'ambition aussi de changer ce pays dans le temps.
Merci beaucoup Maxime Werner Merci. D'être venu nous parler par téléphone de votre candidature à l'élection présidentielle de 2017. Je rappelle que vous allez donc partir pour récolter les 500 parrainages de maires nécessaires. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis sur Radio Val de Reims. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Jean-Pierre Deroire était à la technique. Merci de votre fidélité.